Amis, frères et sœurs, nous sommes ici rassemblés dans notre commune humanité, et chacun dans sa précieuse singularité. Pour ce temps de culte, nous n'avons rien à prouver, rien à justifier. Notre présence suffit. Qui que nous soyons, d'où que nous venions, nous sommes accueillis dans l'inépuisable source de paix, d'amour et de vie que nous nommons Dieu et que Jésus le Christ appelle notre Père. Laissons cette source couler au plus profond de nous et entre nous. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voici réunis. Que ce culte soit une occasion de prendre soin de notre vie intérieure, de notre marche commune sur les chemins d'humanité. Que ton esprit nous tienne ensemble, cœur ouvert, intelligence éveillée, écoute attentive à ta présence et à celle des frères et sœurs autour de nous qui, comme nous, luttent, souffrent, aiment, espèrent. Amen. Et à l'ouverture de ce culte, nous chantons le premier répond dans le livret au début du psautier français. En ce deuxième dimanche de l'Avent, marqué symboliquement par les deux bougies allumées sur la couronne, bienvenue dans ce temps de culte à vous qui êtes présents dans ce temple ou à vous qui rejoignez cette assemblée par le site internet ou les réseaux sociaux. Nous sommes tous recueillis dans la même grâce et la même communion. Et merci à Alexandre Korovitch de nous accompagner à l'orgue, d'aider nos voix à s'élever et nos prières à s'exprimer des profondeurs de notre être. Je vous invite à entrer dans la louange. Éternel Dieu, merci pour le sens que tu donnes au monde, dans la richesse de sa diversité, ce monde en marche, en mouvement, en attente, en enfantement, qui s'agite et bouillonne sans cesse. Merveille de ta création où toujours la vie rejaillit. Merci parce qu'au-delà et à travers les malheurs, les haines et les pleurs, malgré les souffrances, les erreurs et les peurs, par-dessus les silences, les morts et le mal, tu maintiens la vie vivante pour les vivants. Merci parce que tu es la puissance qui nous transforme, qui nous libère et nous unit. L'eau de joie qui déborde dans les déserts, la flamme au fond des couloirs d'ombre, le vent qui ébranle les murs où meurt la vie. Merci d'être l'amour et l'énergie de l'amour qui nous guide au chemin de l'éternité. Amen. Et dans le psautier français, nous poursuivons la louange par le chant du psaume 47. Frappez dans vos mains, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. du psaume 47. Prenez place. Voici comment nous pouvons comprendre la volonté de Dieu pour nous. Dieu en nous est source de vie, de paix et de bonté. Il amène toute chose à l'existence. Il veille sur sa création et l'anime de sa force de vie, de sorte qu'elle reflète sa gloire. La présence de Dieu monte en nous. Elle emplit nos vies de lumière. Nous comptons sur Dieu. Il nous réoriente, nous apaise, nous dynamise, afin que nous répondions à son appel pour la vie en plénitude. Recueillons-nous dans la prière. Éternel, lorsque nous goûtons à la source de bonté et de paix, nous nous rendons compte du tourbillon de nervosité et d'instabilité qui peut nous emporter. Nous voyons les ondes d'amertume et de rancœur qui peuvent nous entraîner. Nous discernons les courants des prétentions et des ambitions qui peuvent nous faire perdre pied. Nous éprouvons la vanité des rêves de gloire qui peuvent nous désarticuler. Lorsque nous goûtons à la source de bonté et de paix, nous prenons conscience des brûlures de nos blessures, du tumulte de nos erreurs, de l'enchevêtrement de nos angoisses. Éternel, nous avons besoin de la source de bonté et de paix. De ta bonté, de ta paix, et du pardon, et de la grâce qui nous tiendront vivants et aimants. Amen. Amis, frères et sœurs, par son esprit, Dieu recrée sans cesse en nous son image. Il change nos esprits encombrés de peur. Il nous rend capables de porter la paix sur notre terre et d'illuminer ce monde par sa clarté. Il souffle sur nous le vent des béatitudes et du pardon pour donner forme à son royaume. Oui, Dieu désire la vie, notre vie, et nous la donne sans mesure. Amen. Rassemblons-nous dans la confession de foi. Nous croyons en Dieu qui nous appelle à œuvrer à ses côtés, en vue de construire le monde et de l'améliorer un peu plus chaque jour. Il est notre force et notre lumière, et nous avons besoin de son amour et de sa force, tout comme il agit par nos bras, notre intelligence, notre cœur. Nous croyons que le Christ nous a montré comment aider chaque être à porter sa souffrance Comment l'accompagner sur le chemin de la vie et de la joie? Nous avons confiance en Dieu, tout comme il nous fait confiance. Son esprit, l'esprit de Dieu, est en nous, même quand nous l'ignorons. Nous croyons que cet esprit nous renouvelle et nous régénère, nous apaise et réoriente nos pensées vers plus d'espérance et de fraternité. Et ainsi, nous contemplons sa gloire. Amen. Prenez place. Et gloire à Dieu, dans les cieux et sur la terre, d'éternité en éternité. Je vous propose de lire ce matin un texte dans l'Évangile selon Matthieu. Au chapitre 21, les versets 1 à 9. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. » Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Et il les laissera aller tout de suite. Cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète. Dites à la fille de Sion, ton roi vient à toi, plein de douceur. Montez sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allaient faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon sur lesquels ils mirent leurs vêtements. Ils s'assirent dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules le précédaient et le suivaient en criant « Hosanna pour le fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Et je vous invite à vous lever pour chanter un cantique qui se trouve tout à la fin, le supplément collé à la couverture du psautier français, la sélection de chorales luthériens. C'est vraiment dans la reliure presque. Et c'est le premier cantique que nous chanterons après la longue attente. Et nous chanterons les trois strophes. prenez place. Alors, nous sommes bien le deuxième dimanche de l'Avent et pas le dimanche des rameaux. Mais si je vous ai invité à lire, à relire ce récit aujourd'hui, c'est parce qu'il était un des textes bibliques lus et médités au culte du dimanche 3 décembre 1724 à Leipzig. Culte pour lequel le compositeur Jean-Sébastien Bach composa la cantate qui sera jouée cet après-midi au foyer de l'âme. C'est dire que le rapprochement entre le temps de l'Avent et le dimanche des rameaux est ancien et même beaucoup plus ancien que le XVIIIe siècle. Avant et rameaux se correspondent à travers le calendrier liturgique, alors même qu'ils désignent plutôt l'un la naissance de Jésus de Nazareth et l'autre sa mort. Mais le début et la fin du parcours sur terre de Jésus de Nazareth ne sont cependant compréhensibles, interprétables, qu'à la lumière de l'événement qui les excède. Et c'est Pâques, le surgissement de vie, le relèvement du crucifié, la résurrection du vivant de vie éternelle. Les récits des évangiles sont écrits à rebours, à partir de Pâques, relecture d'un parcours qui ne prend sens qu'à partir de cet extrême, de cet excès, de ce dépassement, de cette transgression qui atteste que le crucifié était et est le Fils de Dieu, le Christ de Dieu. Le temps de l'Avent qui précède les célébrations de la naissance de Jésus de Nazareth ne prépare pas tant à entendre les récits de naissance des évangiles de Matthieu ou de Luc, ou à savourer les contes de Noël, ou les délices de la fête, qu'à entendre à nouveau l'annonce de la venue de celui qui vient dans le présent, dans le monde présent, dans les existences présentes, faire jaillir un oui à la vie des vivants pour la renouveler, pour la recréer en vie vivante. Et celui qui vient, eh bien, c'est le Christ crucifié et ressuscité. Non pas un Christ dans la crèche ou un Christ bébé dans les bras de Marie ou de Joseph. Au-delà de Noël, le temps de l'Avent nous oriente déjà vers la Passion. Passion qui, selon le calendrier liturgique et dans les évangiles, commence le jour de l'entrée de Jésus à Nazareth, de Nazareth à Jérusalem. Ce récit de Matthieu est tout tissé de références à la Bible hébraïque, particulièrement au livre des prophètes Zacharie, Ésaïe et au livre des Psaumes. Et l'évangéliste qui s'attache à inscrire son œuvre dans la perspective de l'accomplissement des Écritures déploie donc l'entrée de Jésus à Jérusalem comme celle du roi Messie attendu pour le rétablissement d'Israël. Ce roi ne ressemble à aucun des rois des peuples de la terre. Il est assis sur un ânon, le petit d'une ânesse, c'est-à-dire sur une monture de paix, et pas sur le cheval d'un roi chef de guerre. Contrairement à tous les souverains victorieux et glorieux, ce roi n'usera ni de chars, ni de chevaux, ni d'arcs de guerre, mais il parlera pour la paix. Contrairement à Cyrus, roi de Perse, qui pourtant permit le rétablissement de Jérusalem, contrairement à Alexandre, presque roi du monde, contrairement aux empereurs de Rome, dont la paix n'est que le résultat de la force des armes, contrairement à Hérode, le roi dégoulinant du sang des enfants de Bethléem et du sang de Jean le Baptiseur, le roi dont Matthieu témoigne est un roi de douceur et de paix, un roi humble. Et que ce roi soit assis sur un ânon, cela dissonne singulièrement avec les manières des dirigeants des peuples d'hier et d'aujourd'hui et les ambitions et avec les ambitions de tous ceux qui postulent au gouvernement des États, tous ceux pour qui ce gouvernement est forcément associé à la puissance et à la gloire. L'espace de la terre est parsemé des marques, Pyramides, palais, édifices divers, certains déjà en ruine, d'autres encore en construction, des marques laissées par ses rois et ses dirigeants. Et l'histoire du monde est marquée des décisions de ses chefs, de ses gouvernants, pour lesquels le règne se conjuguait, se conjugue forcément, avec la gloire d'être des rois, des dirigeants, des chefs et des gouvernants. Alors, un roi sur un âne, un roi plein de douceur. Les rois du monde, les rois dans le monde, arrivent souvent au pouvoir dans l'attente de leur peuple, des attentes de paix, de justice et de liberté. Il arrive même qu'ils soient considérés ou qu'ils se considèrent eux-mêmes comme des sauveurs, apportant à leur peuple la réalisation de ses idéaux, l'idéal de paix. Mais ne faut-il pas toujours commencer par guerroyer contre un ennemi extérieur ou intérieur, fauteur de troubles ? L'idéal de l'établissement de la justice, mais toujours certains s'en affranchissent, tandis que d'autres en sont exclus. L'idéal de la liberté, mais celle-ci est toujours bornée par une idéologie plus ou moins assumée. Hosanna, c'est-à-dire sauve, sauve donc, crie la foule de Jérusalem qui est assoiffée de paix, de justice, de liberté. Et Matthieu sait bien comment cet espoir a été écrasé par le général romain Titus, sauveur à Jérusalem du système impérial, ce qui lui vaudra une entrée triomphale, mais à Rome, avant qu'il ne devienne lui-même empereur. Salut, libération, traverse toujours des idéaux et des espoirs de peuples entiers et de tant d'hommes, de femmes et d'enfants qui franchissent des déserts, des fleuves, des frontières et des mers au risque de leur vie. Mais que pourrait donc sauver un roi sur un âne, sans puissance, sans apparence, ainsi que nous l'avons chanté après la confession de foi? Un roi sans gloire et sans puissance ne peut être que la risée de tous. Il ne peut que susciter des railleries et des sarcasmes. Et oui, la passion se profile, où le roi, ce roi, sera dénudé, couvert d'un manteau d'outrage écarlate, couronné d'épines, et les soldats en armes lui cracheront au visage, le frapperont, se moqueront de lui, avant de le mener au Golgotha pour qu'il y soit crucifié. La passion se profile, et encore après, des années après, la dérision, la caricature, comme celle du roi sans gloire, d'un dieu sans puissance, c'est du moins ce qu'a voulu affirmer l'auteur du graffiti d'Alexamenos, un graffiti retrouvé dans les vestiges de l'ancien palais impérial de Rome. Cet auteur a dessiné un homme, le dénommé Alexamenos, adorant son dieu représenté par un crucifié à tête d'âne. Faut-il être soi-même un âne, pense l'auteur du graffiti, dont l'imaginaire est saturé de la gloire des empereurs romains? Faut-il être un âne pour adorer un crucifié qui symbolise l'échec, l'impuissance, la déchéance? La caricature se veut cruelle, et pourtant, malgré elle, elle dit une vérité. Comme la titulature que Pilate avait fait inscrire sur la croix, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Avec ce crucifié à tête d'âne, caricature blasphématoire, tonnent ceux qui se considèrent comme les gardiens de la gloire de Dieu. Avec ce crucifié à tête d'âne, l'auteur renvoie, sans le vouloir, à l'âne de Zacharie, à l'ânon de Jérusalem, au roi des armées qui renonce à l'usage de la force, au roi qui ne s'enrichit pas au détriment de ses sujets, à Jésus de Nazareth, le Christ de Dieu venu dans la douceur et l'humilité pour la paix et la justice. Alors oui, le récit de Matthieu, comme ceux de Marc et de Luc, fait voler en éclats les conceptions modernes de la gloire, de la puissance et du règne. Moderne, non, mondaine, mais toujours moderne. Jésus de Nazareth, entrant ainsi à Jérusalem, fait entrer avec lui, en lui et par lui, une protestation qui résonne à travers les siècles et qui a particulièrement résonné au XVIe siècle. Et cette protestation, c'est « À Dieu seul la gloire ». À Dieu seul, soli deo gloria, SDG, inscrivait Jean-Sébastien Bach sur ses œuvres en sceau de foi, en dédicace. À Dieu seul la gloire. À Dieu seul la gloire, et nous pouvons en imagination suivre la route de Jésus entrant à Jérusalem, suivre le chemin du texte, au rythme des pas de l'âne, au rythme de ces cinq mots. À Dieu seul la gloire, protestation d'un roi sans apparence, d'un roi sans gloire et qui n'en veut pas de gloire, parce que justement, à Dieu seul la gloire. Alors c'est Matthieu écrit en un siècle où personne n'empoigne son voisin pour lui assigner que si Jésus est Dieu ou que non, Jésus n'est pas Dieu. Mais là, entrant à Jérusalem, Jésus laisse toute la gloire à Dieu et la puissance. Il laisse même à Dieu le règne véritable, et pour l'éternité, puisqu'il marche vers la mort, même s'il sera relevé 3 jours après. Jésus laisse le règne, la puissance et la gloire à Dieu seul. Bien peu de monarques ou de dirigeants, même chrétiens, y ont cru, bien occupés par leur propre gloire ou à représenter par eux-mêmes du mieux possible leur idée de la gloire de Dieu. Il suffit pourtant d'un petit peu de lecture biblique, d'un petit peu d'esprit critique pour reconnaître les mécanismes et les ouvriers qui participent à la diffusion de ces gloires-là. Jésus de Nazareth a accroché son parcours d'existence à la seule gloire de Dieu depuis le début, pas tant la naissance que lors de la tentation qui suit de si près son baptême et sa révélation « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Au diable, le diviseur, qui le tente en lui proposant le règne, la puissance et la gloire, les réponses de Jésus traduisent déjà cette protestation « À Dieu seul la gloire et la puissance et le règne ». Et lorsque nous prions, et nous prierons tout à l'heure, ne nous laisse pas entrer en tentation. Y est comprise la tentation de la gloire, notre gloire, toujours agitée sous nos yeux, parfois jusqu'à la caricature, toujours agitée devant nos fragilités humaines. Car nous cherchons si souvent à rassurer nos fragilités par quelque chose de solide, qui a du poids, et c'est le sens même du mot « gloire » en hébreu. Nous cherchons à habiller nos fragilités afin qu'elles ne paraissent plus aussi fragiles. Alors la gloire, même une toute petite et éphémère gloire, même une bonne réputation ou une opinion favorable sur soi qui vous hisse un peu plus haut, et d'ailleurs opinion et réputation, ce sont les significations premières du mot gloire en grec, eh bien cela c'est toujours tentant. Mais parce que, à Dieu seul la gloire, nous sommes sauvés de la fascination, de l'illusion de la quête de gloire et de puissance, cette quête vaine, desséchante, culpabilisante et mortifère. Jésus de Nazareth, le roi Messie assis sur un ânon, n'attend pas d'admiration. Il ne veut pas d'admiration. Le sens de sa vie, c'est d'éveiller les consciences, de relever les personnes, d'ouvrir les portes de la vie éternelle, qui est la vie dans la foi, la vie en confiance au Dieu qui fait confiance. Et cela nous éclaire sur ce qu'est la gloire de Dieu, qui se manifeste à travers Jésus assis sur un ânon, et puis aussi guérissant et marchant, appelant, parlant, interrogeant, contestant tous les pouvoirs des uns sur les autres, encourageant à ne pas céder à la soif de gloire et de puissance, ne dit-il pas plusieurs fois dans l'Évangile selon Matthieu, « Qui perd sa vie à cause de moi la trouvera ?» La gloire de Dieu, c'est d'offrir en abondance une générosité impartiale, celle dont Jésus parle dans le discours sur la montagne. C'est d'offrir la vie de la vie vivante. La gloire de Dieu, c'est de pardonner. La gloire de Dieu, c'est d'aimer. La gloire de Dieu dont nous pouvons reconnaître l'éclat dans nos vies, dans la vie, dans l'existence de ceux qui nous entourent, c'est de donner. Donner l'esprit souffle, le Christ frère, la vie éternelle. À Dieu seul la gloire, au rythme des pas de l'âne, c'est libérateur. Pour nous qui n'avons plus d'efforts à faire pour affirmer notre petite gloire ou notre puissance. Hosanna, sauve, sauve. L'appel, la prière de la foule, ou même lorsqu'elle est prière personnelle, est éclairée par la compréhension venue en ce Christ humble et déterminé, fidèle et accueillant pour les miséreux de la terre. Il est venu et il vient encore pour la paix des peuples, pour notre paix, pour que nous vivions en paix. Et même si les lumières de l'avant scintillent parce que le monde est obscur, même si les sapins qui commencent à être dressés projettent aussi l'ombre de la croix, c'est de la douceur qui se faufile ainsi dans l'âpreté du monde, dans l'âpreté de nos existences. L'espérance de paix, de fraternité incarnée par le roi sur l'âne est symbolisée ici par ces deux bougies allumées. Comme un relais, des manteaux et des branches tapissant la voie devant les pas de l'âne. Ce n'est rien de somptueux, n'est-ce pas ? Des branches, des manteaux, des bougies. Mais c'est comme un culte inscrit dans le quotidien, avec ce qu'on a à s'apporter, avec ce qu'on a en soi, sans chercher à se hausser, à se glorifier. Un culte avec ce qui est si peu face à la gloire des rois de la terre. Mais ce si peu, c'est cela qui suffit pour rendre gloire à Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter dans le recueil Louanges et prières au numéro 98, le cantique Saint envoyé du Père, et nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Prenez place.
Bonjour à tous. Au nom du Conseil presbytéral, un grand merci, Dominique, d'être avec nous pour cette prédication. Vraiment merci, du fond du cœur, tous les conseillers et toute l'Assemblée. Vraiment. Agnès est actuellement en train de prêcher au foyer de l'âme. C'est ce qu'on appelle un échange de chair, que nous reprenons de plus en plus à l'Oratoire du Louvre. Et également, Béatrice Cléromazir est à Saint-Louis-en-Lille en ce moment. Va commencer une cérémonie de baptême d'un petit Octave, qui est le fils d'un de nos membres, et qui est marié à une épouse catholique. Et ils ont décidé de le faire Saint-Louis-en-Lille, mais avec Béatrice en train d'officier le baptême. Signe d'œcuménisme dans notre Église, et vous savez que nous y sommes aussi extrêmement attachés. Alors, cet après-midi, donc, culte cantate au foyer de l'âme, quelques annonces. Hein. À quelle heure, Dominique ?
Culte cantate à 15h30 et la cantate en concert à 17h30.
Voilà, donc, foyer de l'âme cet après-midi. Demain, nous faisons un hommage à Bernard Cotteret, un de nos membres, ami. Bernard, pour ceux qui ne le connaissent pas ou ne connaissent pas, Bernard Cotteret est un professeur historien spécialisé notamment dans l'histoire de la Réforme. Malheureusement, il nous a quittés très tôt, il y a bientôt 2 ans. Grand hommage demain, de 14h à 21h, avec beaucoup de témoignages sur son œuvre, témoignages de, si je ne prends que l'Assemblée, Jean-Pierre Clairaut, Vincent Hubach, Philippe Godin, également Patrick Cabanel viendra témoigner, François Claveroli, le président de la Fédération. Donc vraiment, venez, j'espère que vous pourrez passer nous voir, Dominique. Vous n'êtes pas obligé de venir de 14h à 21h30, mais venez, ça sera à la Maison Presbytérale lundi. Monique Cotteret sera parmi nous, son épouse. Donc venez rendre hommage à Bernard et découvrir son œuvre. Mardi, culte d'intercession avec partage biblique l'après-midi. Mercredi, je me tourne vers Gustave. Vous voyez les 5 jeunes là, mais ils sont beaucoup, beaucoup plus nombreux. Mercredi, il travaille avec les pasteurs. Là, il sourit tout timide. Les 5 et bien plus. Mercredi, sur l'ignorance, avec les pasteurs. Et surtout, c'est le dîner de Noël. Donc ça, c'est important. Si vous connaissez des jeunes, c'est vraiment le jour où il faut les envoyer pour découvrir le groupe jeune. Mercredi, jeudi, pause spirituelle. Vendredi, je n'ai rien en tête. Samedi, nous préparons Noël. Alors, ça commence par vous. Samedi matin, Alexandre Korovitch, qui est notre organiste aujourd'hui, est aussi notre maître de chapelle. Je vous rappelle qu'à 10h samedi, venez tous préparer les chants que nous chanterons dimanche. Donc de 10h à 11h, vous êtes tous invités à la maison presbytérale. Parce que dimanche, c'est la fête de Noël des enfants. Donc c'est important qu'on soit tous auprès d'eux et qu'on chante aussi bien les cantiques que nous aurons dimanche, fête des enfants. Je vois également un scout là-bas qui va venir parce qu'on va aussi préparer les chants de Noël. Mais juste avant, vous savez que nous sommes le premier dimanche du mois, deuxième de l'Avent. Mais hier et avant-hier, nous avions eu la vente de l'entraide. Et le premier dimanche du mois, l'offrande est toujours pour l'entraide. Donc tout à l'heure, Gilles nous dira un mot de la vente hier et avant-hier. Mais juste avant, je passe la main à 3 scouts. Il y en a un qui devait arriver. Parce que comme c'est Noël, vous savez qu'il y a la vente des sapins.
Alors bonjour à toutes et à tous. Je me présente. On est la route de l'oratoire pour 2023. Donc on organise une route, c'est un projet humanitaire. Nous, ça sera plus principalement centré sur l'éducation. Et on organise une vente de sapins, donc avec livraison, qui sera livrée normalement le 11. Donc on a mis des affiches dans l'oratoire au local et à l'entrée du temple. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. On a une adresse mail, c'est route2023@gmail.com, avec 3 tailles différentes de sapins. Donc voilà, n'hésitez pas à la fin du culte à venir nous voir. Merci beaucoup.
Donc vous voyez, une association des scouts à l'oratoire, nous avons l'association du cœur dont nous avons parlé, nous avons l'association de l'entraide.
Oui, bonjour à tous. Donc je prends le micro quelques instants pour vous remercier évidemment tous pour votre participation en tant que visiteur et également en tant que bénévole à notre vente qui vient de se terminer hier soir. Donc vous savez que c'est une grosse opération à mettre en place puisque ça commence avec l'équipe comme une sorte de course de fond en automne où il faut un petit peu coordonner tout ce qui va se passer. Et puis ça se termine souvent comme un sprint les derniers jours avec en particulier la dernière soirée où hier il a fallu remettre le temple en configuration de culte, parce qu'il y a quelques heures encore, nous avions les stands ici. Donc, merci encore à tous les bénévoles qui ont aidé. Alors, et ça n'est pas qu'une vente, évidemment, c'est aussi des journées de rencontres très précieuses pour la paroisse, parce qu'il y a effectivement, moi personnellement, des gens que je vois, que je ne vois qu'une fois par an à cette pendant ces journées, et puis effectivement c'est très important de pouvoir les rencontrer, et puis surtout avec l'interruption que nous avons connue à cause du Covid. Donc merci encore à vous tous, donc que vous étiez simple visiteur ou bénévole, donc merci à tous.
Et pour le programme de Noël, pour toutes ces choses que nous venons d'annoncer et plein d'autres que nous n'avons pas encore annoncées. Pour ceux qui ne l'ont pas reçu par courrier, vous avez à la sortie du temple un petit flyer. Alors, il faut prendre des lunettes, mais vous avez tout le programme de tout le mois de décembre. Voilà, donc n'hésitez pas, avec également plein de concerts, comme je suis sûre qu'il y en aura plein au foyer de l'âme, mais on va se débrouiller pour tous les faire, Dominique. Merci beaucoup, l'offrande au profit de l'entraide, bon dimanche, et n'oublions pas, à Dieu seule la gloire. Merci.
Nous entrons dans la prière d'intercession. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ce que ta parole en Jésus le Christ nous donne de comprendre de notre monde et de notre existence. Et parce qu'elle nous permet de reconnaître ton œuvre en nous et avec nous. À toi qui en Christ nous donne la lumière du monde, nous confions notre désarroi et notre colère devant les humiliations subies par tant d'hommes, de femmes et d'enfants qui n'aspirent qu'à vivre en paix et en liberté. Nous te confions notre peine, notre honte, devant les vies perdues, les vies brisées sous le poids des violences et des injustices. Alors nous intercédons. Nous t'en prions. Par ton esprit, inspire à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui gouvernent les peuples, le goût de la solidarité, du dialogue, de l'équité. Et à nous qui ne gouvernons pas, inspire-nous la veille, la vigilance, l'attention nécessaire aux soins des frères et sœurs que tu nous donnes. Aide-nous à orienter nos vies dans l'humilité et la douceur du roi assis sur un ânon. Aide-nous à reconnaître sa venue en nous, tout près de nous, avec nous. Et c'est parce qu'il nous a donné des mots pour prier que nous pouvons encore prier ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Pour repartir, je vous invite à emporter particulièrement ce verset. Ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Amis, frères et sœurs, que l'amour de Dieu accompagne chacun de vos pas. Que la paix de Dieu soutienne chaque étape de votre route, que la joie de Dieu borde votre chemin. Dieu vous bénit et vous garde en son amour. Amen.